Cependant, Junon abaisse ses regards sur la campagne et, surprise de voir que des nuées passagères aient changé le jour en une nuit profonde, elle reconnaît bientôt que ces vapeurs ne s'élèvent point du fleuve ni du sein humide de la terre. Elle cherche de tous côtés cet époux dont elle a si souvent surpris les larcins infidèles, et ne le trouvant point dans le ciel. « Je m'abuse, dit-elle, ou je suis outragée. » Et s'élançant du haut de l'Olympe sur la terre, elle commande aux nuages de s'éloigner. Mais Jupiter avait prévu l'arrivée de son épouse, et déjà la fille d'Inachus était changée en une blanche jeunisse. Elle est belle encore sous cette forme nouvelle. La fille de Saturne, en dépit d'elle-même, admire sa beauté. Quel est son maître, son pays, son troupeau? Elle veut tout savoir, comme si la vérité ne lui était pas connue. Jupiter, pour mettre fin à ses questions, dissimule et répond que la terre l'a enfantée. Junon la demande en présent. Que fera son époux? Il est cruel de livrer l'objet de son amour, mais un refus serait suspect. Ce que la honte lui conseille, l'amour le lui défend, et sans doute l'amour eût triomphé. Mais Jupiter peut-il refuser un don si léger à sa sœur, à la compagne de sa couche, sans qu'elle soupçonne que c'est tout autre chose qu'une génisse? Maîtresse de sa rivale, Junon ne bannit point toute inquiétude. Elle ne cesse de craindre Jupiter et de nombreux larcins, qu'après avoir livré Io à la garde d'Argus, fils d'Arestor. Sans yeux couronner la tête de ce monstre, le sommeil qu'il goûtait tour à tour n'enfermait que deux à la fois. Les autres restaient ouverts et comme en sentinelle. Quelle que fût la place d'Argus, ses regards tombaient sur Io, et quoique placée derrière elle, elle était devant ses yeux. Le jour, il allait se paître, mais quand le soleil est descendu sous la terre, il l'enferme et attache d'indignes liens à son cou. Infortunée, elle n'a pour aliment que les feuilles des arbres et l'herbe amère, pour boisson que l'eau bourbeuse, pour lit que la terre soupant dépouillée de gazon. Plus d'une fois, pour implorer Argus, elle veut lui tendre ses bras et ne les trouve plus. Elle veut se plaindre, il ne sort de sa bouche que des mugissements. Elle en redoute le bruit et sa propre voix l'épouvante. Elle s'approche un jour de ses rives, témoin des jours de son enfance, des rives de l'Inachus. À peine a-t-elle vu dans l'onde du fleuve ses cornes nouvelles, saisie d'horreur, elle recule devant son image. Les naïades la méconnaissent, Inachus lui-même la méconnaît. Cependant, elle suit son père, elle suit ses sœurs, se laisse caresser et s'offre d'elle-même à leur regard qu'étonne sa beauté. Le vieil Inachus cueille des herbes et les lui présente. Elle lèche les mains de son père, elle les couvre de baisers et ne peut retenir ses larmes. Que n'a-t-elle encore l'usage de sa voix? Elle implorerait son secours, elle dirait son nom et ses malheurs. Mais à défaut de paroles, des caractères qu'elle trace sur le sable à l'aide de son pied révèlent sa triste métamorphose. « Malheureux que je suis » s'écrie-t-il, et il reste suspendu aux cornes de la génisse gémissante et à son cou blanc comme la neige. « Malheureux que je suis » s'écrie-t-il encore. « Est-ce bien toi, ma fille, que j'ai cherchée par toute la terre? La douleur de ta perte me pesait moins que celle de te retrouver. Tu gardes le silence, ta voix ne répond pas à la mienne. Seulement de profonds soupirs s'échappent de ton sein, et tout ce que je peux, c'est de répondre à mes paroles par des mugissements. » Hélas, ignorant ta destinée, j'ai préparé pour toi la couche nuptiale et les flambeaux d'Hyménée. Le premier de mes vœux était un gendre, le second une postérité. Maintenant, c'est dans un troupeau que tu dois chercher un époux, c'est là que tu dois chercher des enfants, et la mort ne peut mettre un terme à mon chagrin immense. Malheureux d'être un dieu, la porte du trépas m'est fermée, et le destin me condamne à des douleurs éternelles comme ma vie. Le monstre au front étoilé Dieu, interrompant sa plainte, arrache Io des bras de son père, l'emmène dans d'autres pâturages et va s'asseoir lui-même sur la cime d'une montagne lointaine, d'où il peut promener de tous côtés ses regards vigilants. Le maître des dieux ne put voir plus longtemps les maux cruels que souffrait la sœur de Phoronée. Il l'appelle le fils que lui donna une brillante Pléiade et lui commande de livrer Argus à la mort. Aussitôt, Mercure met à ses pieds des ailes, dans sa puissante main le caducée qui fait naître le sommeil, et sur sa tête un casque. Ainsi paré, du haut des cieux sa patrie, il s'élance sur la terre, et déposant à l'écart et son casque et ses ailes, il ne garde que le caducée. Il se sert de ce caducée comme un berger de sa houlette pour conduire à travers les mille détours de la campagne un troupeau de chèvres qu'il a dérobé chemin faisant et qu'il mène en jouant du chalumeau. Charmé par les doux sons de ce nouvel instrument. « Qui que tu sois, dit le ministre de la vengeance de Junon, tu peux t'asseoir auprès de moi sur ce rocher. Nulle part ton troupeau ne trouverait de plus gras pâturage, et cette ombre, tu le vois, est propice au berger. » Le petit-fils d'Atlas s'assied. Ses longs entretiens semblent arrêter le jour qui s'écoule, et par les accords de son chalumeau, il cherche à triompher de la vigilance d'Argus. Cependant, le monstre lutte contre les douceurs du sommeil, et quoiqu'une partie de ses yeux commence à sommeiller, les autres veillent encore. La flûte venait d'être inventée. Il veut connaître l'histoire de cette découverte,